Info week-end avec Léo Fichou.
Les croisiéristes sont de retour à Nouméa ce matin. L'Ovation of the Seas s'est amarré au port autonome avec à son bord pas moins de 4700 passagers et 1500 membres d'équipage. Dans l'actualité institutionnelle, c'est ce soir que le président du Sénat Gérard Larcher et la présidente de l'Assemblée nationale Yael Braun-Pivet arrivent en Nouvelle-Calédonie. En métropole, les fêtes de Noël vont-elles être perturbées par un mouvement de grève à la SNCF? Les syndicats appellent à une grève dès le mercredi 11 décembre. En Espagne, plus de 130 000 personnes ont manifesté à Valence contre les gouvernements régionaux. Les manifestants accusent les autorités d'avoir mal géré les terribles intempéries du mois dernier. Une opération solidaire ce dimanche à Nouméa. Les Mamans Roses organisaient ce matin une collecte de dons à Géant-Sainte-Marie. Des dons qui seront remis aux sapeurs-pompiers de Nouvelle-Calédonie. Et puis du sport et du rugby, victoire écrasante 52 à 12 de l'équipe de France sur le Japon. Peato Maubaka a inscrit son 10e essai avec les Bleus. Bonjour à tous et bienvenue dans Info Weekend pour tout savoir de l'actualité en Nouvelle-Calédonie, en métropole et dans le monde. Mais avant de développer tous ces titres, une information judiciaire du chef de dégradation par incendie de l'église et des bâtiments culturels de Saint-Louis. Le procureur de la République fait aujourd'hui le point sur les investigations après les exactions et les faits de violence survenus en juillet dernier. Trois individus ont été mis en examen, Michael Juneski.
Oui, il s'agit d'une enquête diligentée par la section de recherche de la gendarmerie de Nouméa, précise le procureur. Enquête qui a donc abouti à la mise en cause de trois hommes originaires de la tribu de Saint-Louis est déjà incarcéré pour d'autres faits de nature criminelle, à savoir des tentatives de meurtre sur des gendarmes et des carjackings. Le procureur de la République rappelle que, dès le 2 juillet dernier, Roquamitan Dibanane ainsi que plusieurs complices avaient décidé d'occuper le prieuré après avoir expulsé les gardiens du presbytère de Saint-Louis, allant même jusqu'à porter des soutanes sur les lieux. Le 7 juillet, Roquamitan Dibanane s'en était pris aux deux religieuses ainsi qu'à des membres de la paroisse en les menaçant. Finalement, des gendarmes du GIGN avaient procédé à l'exfiltration des religieuses dans un contexte de menaces graves sur leur intégrité physique. Le premier bâtiment, à savoir la maison d'accueil où vivaient les religieuses, avait été incendié le 10 juillet, quelques heures après le décès de Roquamitan Dibanane. On le rappelle, par un tir de riposte lors d'une confrontation avec armes face aux gendarmes. L'un des individus mis en examen a reconnu avoir mis le feu dans cette maison d'accueil à plusieurs matelas pour nettoyer, selon ses dires. D'autres locaux avaient été incendiés les 12 et 13 juillet 2024, puis enfin l'église de Saint-Louis le 16 juillet 2024. Les deux autres personnes mises en examen ont contesté avoir participé au déclenchement de l'incendie, mais l'une d'elles a admis qu'elle était bien présente sur les lieux au moment des faits. Les trois individus ont donc été mis en examen du chef de dégradation volontaire de biens par incendie, délit puni de la peine de 10 ans d'emprisonnement. Ils ont été reconduits à la maison d'arrêt au titre du mandat de dépôt criminel déjà ordonné à leur encontre dans une autre procédure criminelle. L'enquête se poursuit afin d'identifier et d'interpeller les autres auteurs ou complices des faits. Le procureur de la République conclut que cette enquête reflète la détermination du parquet pour élucider toutes les procédures criminelles et délictuelles découlant des exactions commises en Calédonie depuis le 13 mai au moyen d'investigations approfondies. Fin de citation.
Vous écoutez Radio Rythme Bleu. Au Mont d'Or, c'est le 100.4.
Et je le disais en titre, c'est le retour des croisiéristes aujourd'hui à Nouméa. Tôt ce matin, l'Ovation of the Seas s'est amarré au port autonome avec à son bord pas moins de 4700 passagers et 1500 membres d'équipage venus en grande majorité d'Australie. On écoute l'une des premières passagères descendues du paquebot.
On savait qu'il y avait des troubles et que de nombreux navires n'avaient pas pu venir ici à cause de tout ça. Et on s'est longtemps demandé si on allait s'arrêter à Nouméa, aujourd'hui ou pas. On avait entendu dire qu'il y avait des gens armés. Et même lorsque nous étions en Vanuatu, notre chauffeur nous a dit « Oh, vous allez vous arrêter là-bas ? Non, 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 ne descendez pas. Ne descendez pas du bateau. » Mais sur le bateau, personne ne s'inquiétait vraiment. Nous avions toujours envie de nous arrêter ici. En Australie, on a vu qu'il y avait des troubles, mais ce n'est que pendant une courte période. Nous avons le même genre de choses en Australie, avec nos différentes communautés. Il y a de l'agitation pendant un petit moment, et puis ça s'en va.
Les acteurs du tourisme se sont organisés pour que cette reprise se fasse dans les meilleures conditions. Une activité non négligeable pour la ville de Nouméa et la Nouvelle-Calédonie. Ce matin, une cérémonie d'accueil a eu lieu à 11h à la gare maritime. Était notamment présent sur place David Guyenne, président de la CCI en charge de la gare maritime.
La CCI est gestionnaire de l'accueil des croisiéristes et c'est vrai qu'on a repris l'activité pour préparer ce jour-là et pour que ce jour se passe très bien. Et on voit que le temps est là, les commerçants, je suis passé les voir, et les artisans sont très contents et avaient hâte justement de reprendre cette activité. On voit aussi que le petit train ou d'autres bus commencent aussi à se redéployer sur Nouméa. Donc c'est vraiment un jour qui compte beaucoup pour nous. Accueillir ce premier bateau, c'est un signe d'espoir que on va redémarrer avec cette activité qui bénéficie à beaucoup de commerces, mais aussi à beaucoup d'activités économiques, pas que sur Nouméa, et même, j'ai envie de dire, surtout dans les îles.
Pour Rosalie Doué-Perret, directrice adjointe de l'agence Kenua, c'est une matinée qui a très bien commencé.
On était tous impatients de retrouver nos croisiéristes ici sur Nouméa. On attendait juste les garanties de sécurité. C'était une journée assez émouvante et ce qui s'est très bien passé ce matin avec l'accueil des croisiéristes. Déjà à l'arrivée, on a eu un groupe de danse qui a accueilli les croisiéristes. Les autorités sont montées à bord et ensuite ils sont partis en tour directement avec tous les tours opérateurs. Les tours opérateurs ont proposé des tours sur la baie des Citrons, sur le phare Amédée, sur Nouméa. Et le Santibao qui est vendu directement ici à la gare maritime avec des transporteurs privés. Étant donné qu'on nous avait informé qu'il y avait une journée culturelle aujourd'hui au centre culturel Tibao.
Des propos recueillis par Kelinda Boicou. À la une également aujourd'hui dans l'actualité institutionnelle. C'est ce soir que le président du Sénat et la présidente de l'Assemblée nationale arrivent en Calédonie. Avant leur venue sur le territoire pour cette mission de concertation, Gérard Larcher et Yael Braun-Pivet se sont exprimés sur la crise calédonienne dans un entretien accordé au journal Le Monde. Michael.
Ils appellent à ne pas se concentrer uniquement sur la question politique, mais aussi à avancer sur la crise du nickel. Tout est lié et il y a une chance de parvenir à un règlement global, a déclaré Yael Braun-Pivet. La question de l'élargissement du corps électoral aux élections provinciales ne doit être qu'un élément de l'accord d'ensemble qui doit être trouvé, a ajouté le président du Sénat. Nous sommes là pour aider, avec humilité, déclare encore Gérard Larcher. Il faut une nouvelle méthode. Attention à vouloir forcer. Les solutions doivent être préparées en terre calédonienne, a-t-il souligné, estimant qu'il est possible de trouver un chemin pour aller vers une autonomie très poussée, sans rupture de lien avec la République. Fin de citation de cet entretien accordé donc par le président du Sénat et la présidente de l'Assemblée nationale au journal Le Monde.
En bref, au chapitre politique, on rappelle que deux congrès indépendantistes se tiennent ce week-end, celui de l'UPM qui se déroule depuis hier à Poum et le congrès du Palika à Calagomène. Lors de son discours d'ouverture, Jean-Pierre Djaïwé, l'un des porte-parole du mouvement, a notamment déclaré que l'organisation du FLNKS questionne. Notez que l'UC, en revanche, réunira son congrès dans 15 jours à la tribu de Mia à Canala. Près de 6 mois après le déclenchement des violences insurrectionnelles qui ont débuté le 13 mai dernier, le haut-commissaire Louis Lefranc était vendredi l'invité d'Elisabeth Noir dans le magazine Transparence. Il s'est livré un large tour d'horizon de la situation, Michael.
En commençant par l'ordre public, on constate depuis plusieurs semaines une amélioration progressive des conditions de sécurité, mais le haut-commissaire relève qu'il reste des points de tension. À Saint-Louis d'abord, même si sur la RP1 le risque existe, mais qu'il n'a jamais été aussi faible, déclare Louis Lefranc, en évoquant le dispositif de sécurité mis en place. Dans un climat de normalisation générale, il existe aussi des tensions, notamment dans certaines communes de la côte Est et sur certains sites miniers. Et pourtant, le couvre-feu a été assoupli et il aura vocation à être levé, indique Louis Lefranc.
On aura forcément une levée du couvre-feu, on l'aura. Les élus sont très attachés, pense au maire en particulier, au maintien du couvre-feu. Le couvre-feu, ce n'est pas une mesure générale, unilatérale, qui intéresse l'ensemble du territoire calédonien. C'est une mesure qui peut être différenciée selon les communes, selon certains secteurs. On peut faire tout cela. Moi, je reste sur une mesure de portée générale, parce que je pense qu'elle est plus facile à appliquer et à contrôler. Donc, j'en suis là et les conditions, petit à petit, se réunissent pour la levée du couvre-feu. Je sais que lorsque le couvre-feu sera levé, c'est une information qui aura son retentissement certainement au-delà des limites de la Nouvelle-Calédonie. C'est une nouvelle qui aura un retentissement national. Je ne peux pas vous dire autre chose quand les conditions seront totalement réunies. Alors, ce n'est pas moi qui décide seul de savoir si les conditions sont réunies ou pas. Je le fais bien évidemment avec les élus, mais surtout avec les responsables des forces de l'ordre, police et gendarmerie nationale. Et c'est avec eux que cette mesure sera levée.
Le commissaire qui souligne que l'interdiction de la vente et du transport d'alcool produit des effets, notamment sur la baisse de la mortalité routière. Il précise aussi qu'il sera amené à lever les interdictions de rassemblement. Et dans ce contexte, les forces de l'ordre sont encore très nombreuses sur le territoire.
Aujourd'hui, j'ai encore 30 escadrons de gendarmerie mobile, ce qui est énorme pour un territoire de 270 000 habitants. C'est énorme. Il y a aussi les gendarmes d'intervention du GIGN, il y a les policiers du RAID, il y a aussi ceux qui sont spécialisés dans des missions d'observation, notamment de nuit, dans les secteurs de vigilance dont je vous ai parlé. Donc il y a tout un dispositif très important qui va rester ici, en Nouvelle-Calédonie, jusqu'à nouvel ordre, même s'il y a des besoins en métropole, parce que chacun est conscient que même s'il y a un retour à la normale, ça reste, de mon point de vue, très fragile. Il y a des braises, ici en Nouvelle-Calédonie. Et puis il y en a qui se sont spécialisés pour souffler sur les braises. Eh bien, à cela, je dis attention. Attention, si parmi eux il y a des commanditaires, comme je vous l'ai dit, on ira les chercher un par un.
Le haut commissaire, interrogé sur les critiques qui sont faites à l'État, considéré comme responsable de ce qui s'est passé le 13 mai, parce qu'il n'a pas assuré l'ordre public, et il se livre à une mise au point.
Je ne connais aucun territoire français qui est calibré pour faire face à une insurrection. On a eu à faire face à une insurrection. Quand vous me donniez tout à l'heure le nombre de 10 000 émeutiers, peut-être 10 000, mais peut-être beaucoup plus. C'est une estimation que nous avons faite. Pour faire face à un volume de 10 000 émeutiers, il n'y a aucun territoire de la République qui est capable de régler le problème en 48 heures ou en une semaine. Ça n'existe pas. Donc il a fallu faire venir des forces. Donc, le chef de l'État avait donné pour instruction au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer de l'époque qu'il y ait un envoi immédiat et massif de forces. C'était ma demande pour justement être en mesure de faire face à tous ces émeutiers qui ont agi essentiellement dans le Grand Nouméa en faisant tous les dégâts que malheureusement les Calédoniens ont subis et qui a plongé beaucoup de familles dans la misère.
Louis Lefranc rappelle aussi que la sécurité civile a été transférée à la Nouvelle-Calédonie. Il y a donc une responsabilité partagée, dit-il, mais il tient à insister sur la question de la culpabilité.
On est responsable. C'est vrai, mais la responsabilité, elle est partagée. On est bien d'accord. La culpabilité, c'est une autre chose, c'est une autre affaire. Nous, on n'est pas coupable de ce qui s'est passé. Qui a fait ça? Les 10 000 émeutiers dont nous parlions. On n'en parle pas beaucoup, à mon avis, pas assez. Ceux qui ont affronté les policiers, ceux qui les ont blessés, ceux qui l'ont tué. Le premier mort, c'est un gendarme mobile, M. Molinari, là. 22 ans, pont de la Coulée, commune du Mont d'Or. Il n'y a pas eu 11 victimes, hein, comme je l'entends de part et d'autre. Il y en a eu 13, il y a eu deux gendarmes. Qui a fait ça? Tout le monde sait d'où ils sont, où ils sont, qui ils sont. Leur responsabilité, c'est la leur. C'est eux qui sont coupables de cela. Et c'est pour ça que les investigations judiciaires sont actuellement en cours. Pour tous ceux qui ont été interpellés, on sait qui c'est et on remontera jusqu'au commanditaire.
Le haut commissaire, interrogé aussi sur les aides de l'État. Il rappelle qu'il y a eu une aide immédiate de 50 milliards de francs, soit 400 millions d'euros, et qu'il y a encore besoin de 30 milliards supplémentaires pour aller jusqu'à la fin de l'année. Cela va passer par la signature d'une convention.
Un fléchage va être mis en place pour novembre-décembre pour la province sud, pour les communes du Grand Nouméa, qui sont évidemment de très loin les collectivités les plus touchées. Donc tout ça, on le met en place. Ça va être adossé à une convention que je devrais signer avec le président du gouvernement. C'est très important qu'elle soit signée. Ce sont les 250 millions d'euros qui manquent, donc les 30 milliards de francs pacifiques, pour répondre aux besoins d'urgence identifiés pour le mois de novembre et le mois de décembre. Donc il y a des petites, j'allais dire petites parce qu'elles ne sont pas très importantes, conditions qui sont posées. Il y a donc une conditionnalité sur un léger relèvement de la CSS, de la TGC et un abaissement de la valeur du point d'indice.
Au total, ce sont 650 millions d'euros qui auront été injectés dans l'économie calédonienne, souligne le haut-commissaire, qui affirme que les modalités de remboursement des prêts et avances peuvent relever de négociations ultérieures. Il a enfin évoqué la prochaine visite des présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale, Gérard Larcher et Yael Braun-Pivet, qui arrivent ce soir. Le haut-commissaire souligne l'importance du déplacement de deux personnalités d'un tel niveau. Ils vont rencontrer beaucoup de gens, entendre des avis. Ils viennent aussi constater où se positionne le cursus de la réconciliation, déclare Louis Lefranc. Ils peuvent également présenter un calendrier de rencontres, indique le haut-commissaire, mais Tout dépend de ce qu'ils entendront et ils attendent beaucoup de cette visite.
Ce qui va leur être dit sera très important. S'ils repartent de la Nouvelle-Calédonie en ayant uniquement entendu des personnes, soit qui veulent en découdre, soit dont les avis sont totalement divergents, qui paraissent irréconciliables, je dirais que ce n'est pas un bon signal qui va être donné. Vous parliez tout à l'heure d'un retour à la normale. Je pense qu'il est grand temps de revenir un peu à la normale, d'avoir du bon sens, de remettre cette Nouvelle-Calédonie sur les rails, d'avoir des idées pour le faire, c'est normal, même si ce ne sont pas toujours toutes convergentes, mais de faire preuve de bonne volonté, de vouloir, après ce qui s'est passé, se réconcilier, parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Ici, on a évité une guerre civile. Et je rends grâce à tous ceux qui ont des armes et qui ne les ont pas utilisées, je leur rends grâce de ne pas l'avoir fait, parce que ce serait un autre bilan ici en Nouvelle-Calédonie.
De toute façon, il faut sortir de cette situation, conclut le haut-commissaire quand on lui demande si, selon lui, un accord global est possible.
Je pense que la population calédonienne a besoin d'être rassurée. Et donc, la responsabilité, elle est lourde. Elle est lourde pour l'État, lourde pour les Calédoniens et leurs élus. C'est l'avenir de la Nouvelle-Calédonie, la question que vous posez. C'est quoi l'avenir de la Nouvelle-Calédonie? Là, il est subordonné à un accord. Il n'y a pas le choix. Il va falloir signer un accord. Et cet accord, il va falloir le construire, et le construire intelligemment, et le faire de façon équilibrée. Chacun ne veut perdre la face, j'entends, mais les familles calédoniennes sont loin de tout ça. Ce qu'elles veulent, c'est un avenir constructif pour leur famille, pour ceux qui ont perdu leur emploi, c'est retrouver leur emploi. Pour celui qui a une entreprise, pouvoir la développer. Pour ceux qui sont à la tête de collectivités, ne pas avoir l'angoisse de voir leurs infrastructures publiques qui sont nécessaires à la vie d'une collectivité, je pense par exemple aux écoles, être détruites. Il faut reconstruire en fait ce territoire. Et donc votre question, c'est ça. C'est pas l'État qui va le faire seul, ce sont les élus calédoniens qui doivent se retrousser les manches et pouvoir en parler sereinement et rapidement pour en sortir.
Une interview du haut-commissaire Louis Lefranc qui sera rediffusée ce soir, juste après notre édition de 17h45. Elle est également disponible en podcast audio et vidéo sur notre site internet.
L'armistice du 11 novembre, c'est demain, mais une cérémonie se déroulait dès aujourd'hui à Païta, au monument aux morts de la commune, en présence notamment des autorités civiles et militaires, ainsi que des anciens combattants. D'autres cérémonies se dérouleront demain pour commémorer l'armistice qui a mis fin à la Première Guerre mondiale en 1918. Nous y reviendrons en détail dans nos prochaines éditions. 12h18, vous êtes sur Radio Rythme Bleu. On marque une première pause publicitaire dans ce journal. Restez avec nous, on reviendra juste après sur toute l'actualité nationale et internationale.
Urgence, pouvoir d'achat.
Chérie, tu savais que l'Hyper U Païta était enfin ouvert?
Et qu'on pouvait gagner plus d'un million de francs de cadeaux? Bien sûr! Venez découvrir votre nouveau Hyper U Païta et jusqu'au 10 novembre, tentez de gagner plus d'un million de francs de cadeaux. Pour participer, rendez-vous en magasin pour remplir le bulletin de jeu sur l'une des bandes de jeu ou en scannant le QR code. Hyper U, sortie Païta Centre. Suivez toutes nos actualités sur notre page Facebook Hyper U Païta NC. Jeux sans obligation d'achat, voire conditions en magasin, tirage sort le 12 novembre. Hyper U, la qualité notre métier, le prix notre priorité.
U, commerçant autrement.
Jusqu'au 15 novembre, gagnez un séjour de rêve à l'hôtel Kulnoué Village. Logez 5 nuits en bungalow premium avec vue mer, petit déjeuner et buffet pour deux personnes. Profitez de la mer et de la piscine ainsi que de nombreuses activités sur place. Un cadeau d'une valeur de 136 000 francs. Pour jouer, c'est facile. Envoyez maintenant chance au 40-20. L'hôtel Kulnoué Village vous accueille toute l'année dans un cadre à couper le souffle en face de la poule de Yengen. Toutes les actus sur le Facebook de l'hôtel. Alors pour décompresser, envoyez chance au 40-20. Tirage au sort vendredi 15 novembre à 14h. 371 francs par SMS. Sur Radio Rythme Bleu, il n'y a pas de jour sans jeu.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Excellent début d'après-midi. La suite de votre journal, on retrouve Léo Fichou.
En métropole, les fêtes de Noël vont-elles être perturbées par un mouvement de grève à la SNCF? Les syndicats appellent à une grève dès le mercredi 11 décembre. Une grève reconductible toutes les 24 heures, mais surtout à durée illimitée. Une annonce dans un communiqué commun de la CGT Cheminot, d'UNSA Ferroviaire, de Sudrail et de la CFDT Cheminot. Mais quelles sont les raisons de cette grève qui devrait débuter dans tout pile un mois? Maxime Gondelot pour Europe 1.
Alors elles sont multiples. D'abord, les syndicats réclament un moratoire contre le démantèlement de Fret SNCF en deux entreprises distinctes prévues le 1er janvier prochain. Mais ce démantèlement a été décidé au niveau européen. Michel Kidor, vice-président de la Fédération nationale des usagers des transports.
La commission a infligé une amende de 5,3 milliards d'euros à la SNCF pour comportement anticoncurrentiel. Le gouvernement, pour épargner à la SNCF de payer cette amende monstrueuse, a négocié un accord. Et donc ils sont arrivés à une restructuration restructuration du fret ferroviaire. Donc on a une grève qui est une grève politique et dans laquelle les voyageurs n'ont absolument rien à voir.
Alors, autre point de crispation, le morcellement de SNCF Réseau. La volonté de la direction est d'ouvrir à la concurrence les activités TER, Transilien et Intercité, donc à des entreprises privées. Certains cheminots pourraient être transférés dans le privé. Ils sont contre. Enfin, vous l'avez dit Brandon, la grève commencera le 11 décembre prochain avec en ligne de mire les vacances de Noël. Et si les usagers de la SNCF ne sont pas à l'origine de la grève, c'est peut-être eux qui pourraient en faire les frais en cette fête de fin d'année.
Maxime Gondelot pour Europe 1. En métropole, toujours un match de football sous haute sécurité. Vendredi à Saint-Denis, France, Israël, au Stade de France. Un dispositif revu à la hausse. 4000 policiers et gendarmes mobilisés. L'équipe israélienne sera par ailleurs escortée par les forces de l'ordre dès son arrivée à Paris. On rappelle que 62 personnes ont été arrêtées aux Pays-Bas après les agressions antisémites qui ont visé des supporters du Maccabi Tel Aviv. Des actes qui, selon Emmanuel Macron, rappellent les heures les plus indignes de l'histoire. Des violences antisémites qui inquiètent la communauté juive de France. Sur Europe 1, Franck Tapiro, expert en communication, appelle le public à se rendre au match au Stade de France.
Il y a eu une vague comme ça qui tente à dire n'y allez pas, comme si bien sûr il y avait une indignité à jouer contre Israël. La meilleure réponse, c'est d'y aller en masse. Et dans les rues d'Amsterdam, on l'a vu, ce ne sont pas des supporters contre d'autres supporters. Ce sont des hordes anti-juives qui attendaient les supporters devant leurs hôtels et dans la ville pour chasser les juifs. Et on a vu ces vidéos épouvantables qui avaient d'ailleurs exactement le même procédé que le Hamas, qui a filmé ces exactions avec fierté. Sauf que là, il fallait juste dire qu'on n'était pas juif et dire Free Palestine pour éviter d'être tabassé, comme sous l'occupation où on faisait baisser le pantalon des jeunes enfants pour savoir s'ils étaient circoncis, juifs ou non. Voilà, donc il faut se remettre aujourd'hui dans un contexte qui n'est pas juste une guerre comme ça entre supporters, des échauffourées. Non, c'est une haine des juifs qui a maintenant dépassé une autre dimension.
Le match de la Ligue des Nations entre la France et Israël aura lieu vendredi matin à 6h45, heure de Nouméa.
À Radio Rythme Bleu, il est 12h22.
Dans le reste de l'actualité internationale, en Espagne, plus de 130 000 personnes ont manifesté à Valence contre le gouvernement régional. Les manifestants accusent les autorités d'avoir mal géré les terribles intempéries du mois dernier. La population a été livrée à elle-même, dénoncent les sinistrés. Ils demandent même la démission du gouvernement régional. On rappelle que les inondations ont fait au moins 219 morts dans la région de Valence. À 12h23 sur Radio Rythme Bleu, on marque une dernière pause dans ce journal avant de développer l'actualité sportive et notamment cette victoire écrasante de l'équipe de France de rugby sur le Japon.
En ce moment, Dacia vous surclasse. Pour le prix du modèle Life, repartez avec le modèle supérieur Life Plus. Chez Dacia, vous montez en gamme sans dépenser plus. Pour le même prix, vous avez plus d'équipement. Rendez-vous chez Dacia au 4e kilomètre pour vous faire surclasser. Et à vous, le Dacia Duster Life Plus à 1 995 000 francs et Dacia Sandero Life Plus à 1 895 000 francs. Renseignements sur notre page Dacia Nouvelle-Calédonie. Possibilité de financement sur place, offre dans la limite des stocks disponibles. Protégeons notre pays, économisons l'énergie.
Pour gagner des bons d'achat de 100 000 francs, à dépenser où vous voulez, comme vous voulez, envoyez RRB au 4020. Tous les 1500 SMS, pile sur le compteur, 100 000 francs de bons d'achat sont gagnés. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Et si vous n'êtes pas pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 4020. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 4020. Bonne chance.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Et la suite d'Info Week-end en compagnie de Léo Fichou.
Et avant de parler sport, un mot de cette opération solidaire. Les Mamans Roses organisaient ce matin une collecte de dons à Géant-Sainte-Marie. Les clients étaient invités à déposer tout ce qu'ils souhaitaient pour offrir aux pompiers calédoniens. Certains soldats du feu sont présents ce matin pour assister les Mamans Roses. C'est une grande émotion, notamment pour Mauro Pizzolito, le président de l'Union des pompiers calédoniens.
C'est franchement, je suis très étonné de la participation des gens, de l'association des Mamans Roses qui sont là aujourd'hui et qui ont décidé de nous faire ce don pour les pompiers de la Nouvelle-Calédonie. Un grand merci à l'Amicale des sapeurs-pompiers de Nouméa, un grand merci à l'association des Mamans Roses et un grand merci à toute la population de la Nouvelle-Calédonie qui aujourd'hui sont là pour nous apporter tous ces dons et que d'ici une quinzaine de jours, je vais pouvoir aller le dispatcher sur toute la Nouvelle-Calédonie.
Et notez qu'à la fin du mois, ce sera la journée des mamans roses qui viennent en aide aux personnes hospitalisées dans le besoin. Une action prévue le 30 novembre. Dans le reste de l'actualité culturelle, à Farino, c'était un nouveau dimanche où les exposants du marché de mamie étaient à l'honneur, comme tous les deuxièmes dimanches du mois. Ça s'est déroulé sur l'esplanade de la mairie. Et puis à Nouméa, au centre Tibaou, c'est le premier marché d'artisanat d'art qui se déroule depuis ce matin, avec de nombreux exposants venus montrer des savoir-faire variés. Un événement qui continue jusqu'à 15h cet après-midi.
Avec Décathlon, suivez l'actualité sportive du jour et les résultats locaux, nationaux et internationaux. Décathlon, partenaire de tous les sportifs calédoniens depuis 10 ans. Décathlon, à fond la forme.
Et on parle donc sport et rugby. Le 15 de France n'a fait qu'une bouchée du Japon ce matin, Michael.
Antoine Dupont et l'équipe de France se sont largement imposés 52 à 12 dans le cadre de ce premier test match de la tournée d'automne. 8 essais inscrits par les Français, dont un du Calédonien Peato Maovaka, déjà son 10e avec les Bleus. On écoute le capitaine du 15 de France, Antoine Dupont.
Je pense qu'on avait un gros appétit, les conditions étaient vraiment bonnes. On a mis beaucoup d'engagement aussi sur nos ballons offensifs sur le début de match, ce qui fait qu'on a eu des libérations rapides et pas mal d'espace autour des recs. Et je sais que nous avons en son friant, donc on a pu les exploiter. Oui, évidemment, je l'attendais depuis quelques semaines maintenant, depuis qu'on a rejoint le groupe, etc. Donc ça fait plaisir de retrouver le public, le Stade de France avec un match comme ça, et il nous tarde la semaine prochaine maintenant.
Et oui, la semaine prochaine, les Bleus affronteront la Nouvelle-Zélande. Rendez-vous dimanche prochain 7h10, heure de Nouméa. Les All Blacks qui ont battu l'Irlande 23-13 hier, et notez que ce matin, l'Australie est venue à bout de l'Angleterre 42-37.
Du football en métropole, c'était la suite de la 11e journée de Ligue 1.
Ce matin, Monaco s'est imposé dans le Money Time sur Strasbourg 3-1. Même scénario pour Lens face au Nantais d'Antoine Comboiré, victoire 3-2. Et puis le Paris Saint-Germain a largement dominé Angers 4-2. Notez que les matchs Lens-Nantes et Angers-PSG ont été interrompus quelques minutes. Des supporters ont manifesté contre la LFP en jetant des balles de tennis sur la pelouse. Pour rappel, hier, l'Olympique de Marseille s'était incliné 3-1 sur sa pelouse face à la JOCR.
Du foot sur la scène européenne aussi ce week-end. En Angleterre, Manchester City s'est incliné pour la 4e fois d'affilée à défaite 2-1 contre Brighton, alors que Liverpool s'est imposé 2-0 sur Aston Villa. À noter que demain, Arsenal affrontera Chelsea. En Espagne, le Real se réveille et domine largement Osasuna 4-0. La nuit prochaine, l'Atlético de Madrid jouera à Majorque et le Barça face au Real Sociedad, à la Real Sociedad. En Italie, c'est la Juve qui a remporté le derby de Turin, 2-0, en attendant le duel demain matin entre les deux premiers, l'Inter et Naples. Et puis un mot en Allemagne, victoire du Bayern, défaite de Dortmund et match nul de Leverkusen. Du tennis et le premier titre sur le circuit ATP pour Benjamin Bonzi.
À 28 ans, le Français a remporté le Moselle Open à Metz. Issu des qualifications, Benjamin Bonzi termine en beauté une semaine de rêve en battant en 2-7 le Britannique Cameron Norrie 7-6-6-4. C'était le dernier tournoi de la saison avec les Masters, et les Français ont brillé sur les tournois ATP 500 et 250. Victoire d'Hugo Humbert à Dubaï et Marseille, victoire d'Arthur Fils à Hambourg et Tokyo, victoire de Giovanni Mpelcher-Bericard à Lyon et à Bâle, et puis le succès de Benjamin Bonzi donc à Metz.
Radio Rythme Bleu, les bonnes fréquences. À Nouméa, c'est le 100.4.
Le sport en Calédonie, du golf avec les championnats territoriaux qui se poursuivent ce dimanche.
Oui, les championnats territoriaux Elite, Espoir et Vintage qui ont débuté hier. Pas moins de 100 participants. Les conditions sont compliquées, mais le plaisir de retrouver un tournoi décernant des titres à l'arrivée est là pour les joueurs comme pour les organisateurs. Jean-Daniel Burté est le président de la SEM de Tinard.
On pense qu'on a, finalement beaucoup de chance. D'abord, le temps est magnifique, beaucoup de vent, donc ça rend les conditions de jeu difficiles, mais c'est un beau week-end. On a réussi à remettre le parcours dans un état plus qu'acceptable après des périodes difficiles, puisque pendant 2 mois à peu près, l'accès au golf a été impossible en mai, juin, et puis début juillet, on a pu commencer à revenir un petit peu de façon plus intensive. Une partie du personnel a travaillé la nuit pour protéger les locaux, donc n'a pas pu entretenir le terrain. Quand les choses se sont calmées, on a mis un grand coup d'accélérateur sur la remise en état du parcours et on est assez content du résultat et on est content d'avoir beaucoup de joueurs qui ont l'air de prendre du plaisir, même si les conditions de jeu sont particulièrement difficiles en ce moment.
Et hier soir, au classement brut, à l'issue de la première journée, c'est Jules Guépy de la Ouingui qui était en tête. 5 coups d'avance sur Adrien Pérez, également de la Ouingui. Jean-Louis Guépy, premier pro, et Pierre Le Boulanger, que vous avez pu entendre dans nos précédentes éditions, étaient 3e, tous deux à 6 coups du leader. Les parties qui continuent jusqu'à lundi sur les greens de Tinard.
Un mot de football. La sélection A de Nouvelle-Calédonie part aujourd'hui pour la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Jeudi, les joueurs de Johan Zidaner affronteront les îles Salomon, puis les Fidji dimanche dans le cadre des qualifications à la prochaine Coupe du Monde. Objectif, 2 victoires pour terminer à la première place du groupe et ne pas affronter l'ogre néo-zélandais en demi-finale. On rappelle que lors du premier match des phases de poule, les Kagou avaient battu les Papous 3-1. Et puis on termine avec du VTT, la Deva VTT à Bouraille, mais aussi la Sunset Stash, un trail et une épreuve de vélo tout-terrain qui ont ravi les quelques 300 participants engagés hier.
Oui, trail de 6 km à Poé avec la victoire d'Antoine Barguin devant Johan Le Calvez et Jérémy Giraudet chez les Dames. Les trois premières sont arrivées groupées, Séverine Lecomte devant Clémence Besson-Léo et Emmanuel Lamontagne. Et pour la partie VTT, Ryan Lachenier a remporté l'épreuve phare de 33 km devant Florian Marot et David Esposito. Caroline Favier a terminé meilleure féminine. Deux rendez-vous qui était organisé en partenariat avec RRB.
Merci Mickaël. 12h31 sur Radio Rythme Bleu. C'est la fin de cette édition. On se retrouve à 13h dans une petite demi-heure pour le prochain point sur l'actualité.
L'actualité ne s'arrête jamais sur rrb.nc.